Bonjour, vous êtes sur Radio Grand Ciel et c'est le moment de votre cup of tea en compagnie de Véronique Réau avec Pablo à la technique. N'étant pas capable de lire l'avenir, et c'est peut-être mieux ainsi, j'ignore si, lorsque cette émission sera diffusée, nous serons à nouveau libres de nos mouvements. Je le souhaite. Je n'ose aller jusqu'à l'espérer. Alors j'ai choisi de vous emmener faire une promenade en barque sur la Tamise, en compagnie de trois hommes et d'un chien. Oui, ce mois-ci, nous allons parler du célèbre roman de Jérôme K. Jérôme, « Trois hommes dans un bateau », sans parler du chien. Bien sûr, nous évoquerons la vie et les autres œuvres de l'auteur, mais sans nous attarder, car comme pour Richard Adams, avec qui nous avons pris notre tasse de thé le mois dernier, Jérôme K. Jérôme est surtout l'homme d'un livre. Cela nous laissera le temps de lire quelques-uns des passages les plus justement fameux de l'œuvre, de vrais morceaux d'anthologie dont on ne se lasse pas. Jérôme K. Jérôme est né à Walsall, dans les Midlands, le 2 mai 1859. Quatrième enfant de Jérôme Cap Jérôme, quincaillier et prédicateur laïque protestant, et de Margaret Jones. Au cas où vous vous demanderiez quel était le deuxième prénom de Jérôme K. Jérôme, je peux vous informer, je le sais depuis peu, que c'était Klapka, inspiré, paraît-il, par le nom d'un général hongrois exilé en Angleterre. Jérôme a eu une jeunesse difficile. Car alors que la famille était plutôt aisée, son père ayant fait des investissements malheureux, les Jérôme glissèrent vite dans la pauvreté. De plus, il perdit son père à 13 ans, puis sa mère à 15. Il dut donc très tôt subvenir à ses besoins, ce qu'il fit en enchaînant les petits boulots. Mais il se réserva du temps pour l'écriture. Son premier ouvrage, sur la scène et en coulisses, est publié en 1885. C'est un recueil de souvenirs de théâtre, car il avait, entre autres, été acteur pendant 2 ans. Suivra en 1886 « Les pensées paresseuses d'un paresseux », un premier petit succès, mais « Trois hommes dans un bateau », paru en 1889, est le livre qui le fait connaître du grand public, même si l'ouvrage sera boudé par la critique, et boudé est peu dire. Voici quelques extraits de presse qui vous donneront une idée de la façon dont l'œuvre fut accueillie. Le célèbre critique Max Beerbohm écrit « Cet auteur de dixième ordre nous inonde depuis 10 ans de ses produits de dixième ordre. » Le Saturday Review, humour pauvre, limité et décidément vulgaire. Et sans doute le plus savoureux, le Morning Post, un exemple des tristes conséquences à attendre de l'excès d'éducation parmi les classes inférieures. Pour en revenir à l'auteur, signalons que Jérôme K. Jérôme a également édité plusieurs magazines hebdomadaires et beaucoup voyagé, pas seulement sur la Tamise, mais en Russie, aux États-Unis et en Europe. En 1914, il se rend en France et s'engage comme ambulancier. Parmi ses œuvres, il convient aussi de citer « Trois hommes en Allemagne », suite de « Trois hommes dans un bateau », plusieurs pièces de théâtre et son autobiographie, parue en 1926, un an avant sa mort, à 68 ans, des suites d'une hémorragie cérébrale. Il semblerait que son œuvre maîtresse, « Trois hommes dans un bateau », lui ait été inspirée par le voyage qu'il fit en canot peu avant son mariage, un an plus tôt et précisément sur la Tamise. Mais il s'agit seulement d'un point de départ dont l'humoriste s'est très vite éloigné. Le roman narre les aventures de George, Harris, Jérôme et le chien Montmorency, entreprenant un voyage de santé. Les personnages sont des doubles littéraires de l'auteur et de ses amis, George, le paresseux, et George Wingrave, employé de banque qui deviendra plus tard un des membres du directoire de la Barclays. Harris, le costaud amateur de boissons fortes, est inspiré par Carl Henschel, imprimeur, qui deviendra patron d'une des plus importantes entreprises de ce secteur. Montmorency, le chien, est une création de Jérôme K. Jérôme. Le livre commence avec une réunion des trois amis qui, tout en bavardant et en fumant la pipe, se déclarent épuisés et atteints de nombreuses maladies. Nous nous sentions mal fichus tous les quatre et cela nous inquiétait. Harris déclara qu'il éprouvait parfois de tels accès de vertige qu'il ne savait presque plus ce qu'il faisait. Et George nous assura qu'il en allait de même pour lui. Chez moi, c'était le foie qui n'allait pas. J'en étais convaincue parce que j'avais lu une réclame pour un produit pharmaceutique contre le mal au foie. On y détaillait tous les symptômes d'un foie détraqué, je les avais tous. C'est une chose des plus curieuses, mais je n'ai jamais pu lire ce genre de littérature sans être amenée à penser que je souffre du mal en question sous sa forme la plus pernicieuse. Le diagnostic me semble chaque fois correspondre exactement aux symptômes que je ressens, J'ai toujours en mémoire cette visite faite un jour au British Museum. Je voulais me renseigner sur le traitement d'une légère indisposition dont j'étais plus ou moins atteint. C'était, je crois, le rhume des foins. Je consultais un dictionnaire médical et lus tout le chapitre qui me concernait. Puis, machinalement, je me mis à tourner les pages. Je tombais tout d'abord sur une maladie dont j'ai oublié le nom. C'était en tout cas un mal terrible et dévastateur. Mais avant même d'avoir lu la moitié des symptômes prémonitoires, il m'a paru évident que j'en souffrais bel et bien. Un instant, je restais glacé d'horreur. Puis, dans un état de profonde affliction, je poursuivis ma lecture. J'arrivais à la fièvre typhoïde. M'informai des symptômes et découvris que j'avais la fièvre typhoïde, que je devais l'avoir depuis des mois sans le savoir. Me demandant ce que je pouvais bien avoir encore, j'arrivai à la danse de Saint-Guy et découvris, comme je m'y attendais, que j'en souffrais aussi. Mon cas devenait intéressant. Déterminé à boire le calice jusqu'à la lie, je repris depuis le début par ordre alphabétique pour apprendre que j'avais contracté l'alopécie et que la période aiguë se déclarerait dans une quinzaine environ. Le mal de Bright, je fus soulagé de le constater, je n'en souffrais que sous une forme bénigne et pourrais encore vivre des années. Le choléra, je l'avais, avec des complications graves. Quant à la diphtérie, je devais en être atteint de naissance. Consciencieux, je persévérais tout au long des 26 lettres de l'alphabet, et pour finir, il s'avéra que la seule maladie que je n'avais pas était l'hydarthrose de la femme de ménage. J'en éprouvais quelques dépits tout d'abord. Cela me semblait injuste. Pourquoi n'avais-je pas l'hydarthrose de la femme de ménage? Pourquoi cette restriction? Mais au bout d'un moment, je me montrais moins exigeant. N'étais-je pas atteint de toutes les autres maladies connues de la pharmacopée? Je réfrénais mon avidité et résolus de me passer de l'hydarthrose de la femme de ménage. Comme remède à leur mal de vivre, les trois amis décident donc d'une expédition de canotage sur la Tamise, un plan approuvé par tous, même par le chien Montmorency. Il faut ensuite se mettre d'accord sur ce qu'il faudra emporter. Harris prend les choses en main en divisant le travail équitablement entre ses deux compagnons. Et cette façon de procéder rappelle à l'auteur son oncle Podger, nous régalant du passage sans doute le plus fameux de tout le livre. Ça, c'est Harris tout craché, toujours prêt à se charger lui-même de tout et à coller la besogne sur le dos des autres. Il me fait penser immanquablement à feu mon oncle Podger. Vous n'avez pas idée du chambardement qui s'abattait sur la maison quand oncle Podger avait pris la décision de bricoler un peu. L'encadreur venait de livrer un tableau et l'objet était là, attendant dans la salle à manger, qu'on daigna le suspendre quelque part. Ma tante Podger s'inquiétait. Par où devait-on commencer? Et oncle Podger répondait « Oh, laisse-moi faire, je vais m'en occuper. Que ni toi ni personne ne se tracasse, je me charge de tout. » Il retirait alors son veston et se mettait à l'œuvre. Il envoyait la bonne acheter pour 10 sous de clous, pressait l'un des garçons de courir après elle pour lui préciser la dimension adéquate et ainsi mettait peu à peu en branle-bas la maison entière. « Et maintenant, Will, va me chercher mon marteau » criait-il. « Et toi, Tom, apporte-moi la règle. Ah, il me faudra l'escabeau, puis une chaise de cuisine. Jim, tu vas courir chez Monsieur Goggles. Tu lui diras que ton papa le salue bien et qu'il lui demande de lui prêter son niveau d'eau. Maria, j'ai besoin de quelqu'un pour me tenir la lampe. Quand la bonne reviendra, il faudra qu'elle ressorte chercher un bout de cordelière à tableau. Tom, viens ici. Prépare-toi à me tendre l'objet. » Enfin, il soulevait le chef-d'œuvre pour le laisser échapper aussitôt. Le tableau sortait de son cadre, il essayait de rattraper le verre et se coupait la main, alors il sautillait dans toute la pièce à la recherche de son mouchoir, qu'il ne trouvait pas parce qu'il l'avait fourré dans la poche de son veston, lequel venait de disparaître. Il l'avait retiré à l'instant. Où donc pouvait-il être? Tout était momentanément suspendu, les outils pouvaient attendre, chacun était tenu de se mettre incontinent à la recherche de ce fichu veston. Cependant, mon oncle se démenait houspillant à la ronde. « Il n'y a donc personne dans cette maison qui sache où est mon veston? Vous êtes 6. Pas un qui soit capable de retrouver un veston que j'avais enlevé il n'y a pas 5 minutes. »« Bon sang de bonsoir. » Alors il se levait, et constatant qu'il était assis dessus, il s'écriait « Ah, ne cherchez plus, je l'ai retrouvé tout seul. Je me serais adressé au chat pour m'aider plutôt qu'à vous, j'aurais pas été plus mal servi. » Et quand une demi-heure s'était passée à lui soigner le doigt, acheter un autre verre, apporter les outils, l'escabeau, la chaise et la lampe, une nouvelle représentation commençait. La famille entière, y compris la bonne et la femme de ménage, se tenait autour de lui en cercle, prête à l'aider. 2 personnes tenaient la chaise, 1/3 l'aidait à monter dessus, 1/4 lui tendait un clou, et 5e venait à peine de lui passer le marteau que le clou lui avait glissé des doigts. « Et voilà, disait-il d'un ton dépité, le clou est tombé !» Et de nous mettre tous à 4 pattes à la recherche du clou, cependant qu'il restait planté sur sa chaise, à ronchonner et à nous demander si on comptait le garder là toute la soirée. Le clou enfin retrouvé, c'était au tour du marteau de disparaître. Mais où est le marteau maintenant? Où ai-je mis ce fichu marteau? Vous êtes là à me regarder les yeux ronds. Personne ne sait ce que j'ai fait du marteau. On lui retrouvait son marteau, mais il ne distinguait plus la marque qu'il avait faite sur le mur pour y enfoncer le clou. Et nous grimpions l'un après l'autre sur la chaise à côté de lui pour tâcher de la découvrir. Chacun la situait à une place différente, se faisait traiter d'imbécile et s'entendait ordonner de descendre. Il s'emparait alors de la règle, mesurait de nouveau pour finir par constater qu'il lui fallait prendre la moitié de 75 cm un tiers. Il se risquait à un calcul mental et devenait enragé. Chacun se creusait les méninges pour faire mieux et chacun obtenait un résultat différent et se moquait de son voisin. Dans la confusion générale, on oubliait la mesure prise et il ne restait plus à oncle Podger qu'à reprendre la règle. Il utilisait un bout de ficelle cette fois-ci. Et au moment critique, où ce bon vieux crétin se penchait sur son perchoir selon un angle de 45 degrés, tentant d'atteindre un point que les lois de l'équilibre lui interdisaient, la ficelle lui faussait compagnie, il tombait à son tour et atterrissait sur le piano avec un très bel effet musical dû à l'ensemble parfait avec lequel sa tête et son corps venaient frapper les touches. Pour finir, mon oncle Podger parvenait à situer de nouveau la place du clou, prenait ce dernier dans la main gauche, le marteau dans la droite, et s'écrasait le pouce au premier coup, lâchant l'outil sur les orteils de quelqu'un d'autre dont les hurlements s'élevaient en se mêlant aux siens. Ma tante Maria faisait doucement remarquer que la prochaine fois que mon oncle Podger entreprendrait de planter un clou dans le mur, elle souhaitait qu'il lui fît savoir suffisamment à l'avance pour qu'elle se préparât à passer une semaine chez sa mère le temps que le clou fût planté. Harry, ça deviendra tout pareil avec l'âge, je le sais et je n'ai pas manqué de lui dire. Commence alors l'expédition. Et les digressions, car si le projet de Jérôme K. Jérôme était simplement de faire un guide touristique à l'usage des vacanciers canotiers, l'auteur s'éloigna vite de cette ligne initiale, et le moindre événement devient prétexte à des digressions sur la nature perverse des fox terriers, l'inexactitude des baromètres ou la mauvaise volonté des bouilloires à bouillir quand on les regarde. La bouilloire mise à chauffer à l'avant du canot, nous nous retirâmes à l'arrière, feignant de l'ignorer. C'est la seule méthode pour qu'une bouilloire consente à bouillir. Si elle voit que vous l'attendez avec impatience, elle refusera de chanter. Il vous faut vous éloigner et commencer votre repas comme si vous ne souciez pas le moins du monde de prendre le thé. Il est même vivement recommandé dans ces cas-là d'éviter de la regarder. Alors vous l'entendrez bientôt bouillonner gaiement, tout excité à l'idée de se transformer en thé. Suite un passage également très édifiant sur l'euphorie postprandiale. Dieu qu'on est bien quand on est plein. Comme on est en paix avec soi-même et le reste du monde. Les gens qui s'y sont essayés affirment qu'une conscience légère vous rend content et même heureux, mais un estomac bien lourd peut en faire autant, à moindre coût et plus rapidement. On se sent si généreux, si tolérant après un repas substantiel et qui passe bien. On se sent si noble, si bon. Quelle étrange domination que celle exercée par nos organes digestifs sur notre intellect. Impossible de travailler ou seulement de penser sans nous être auparavant soumis au bon vouloir de notre estomac. Car c'est lui qui nous dicte nos émotions et nos passions. « Travaille !» ordonne-t-il après les œufs au jambon. « Dors !» après un beefsteak arrosé de bière. Mais après une tasse de thé, deux petites cuillères par tasse, ne pas laisser infuser plus de 3 minutes, il enjoint au cerveau « Allons debout, montre ce que tu sais faire, sois éloquent, profond, sensible, considère d'un œil lucide la nature et la vie, déploie les blanches ailes de ta pensée déjà toute palpitante et prends ton essor, esprit divin, élève-toi au-dessus des tourbillons du monde par les longues avenues d'étoiles flamboyantes jusqu'aux portes de l'éternité. » Nous sommes les véritables et très humbles esclaves de notre estomac. Ne cherchez ni la moralité ni la droiture, chers amis. Surveillez attentivement votre estomac et alimentez-vous avec soin et discernement. Alors vertu et contentement viendront habiter votre cœur sans nul effort de votre part. Vous serez un bon citoyen, un époux aimant, un tendre père, un homme pieux et noble. Nos trois mousquetaires, qui, comme ceux de Dumas et grâce à la présence de Montmorency, étaient quatre, connaissent quantité de mes aventures désopilantes au cours de ces 15 jours de vacances. Les derniers jours, cependant, leur semblent particulièrement durs à vivre sous une pluie incessante. Les amis s'efforcent de faire preuve d'une détermination héroïque à poursuivre l'aventure jusqu'à son terme. « Nous étions partis, écrit Jérôme K. Jérôme, pour passer une quinzaine sur la Tamise, et nous aurions notre quinzaine de vacances, dussions-nous en périr. » Cependant, peu à peu, la perspective d'une nouvelle soirée sinistre et d'un dîner lugubre dans le pub local pour ressortir sous la pluie battante à raison de nos héros qui décide de rejoindre Londres, de s'offrir une soirée à l'Alhambra, music hall bien connu à l'époque, et un bon dîner dans un merveilleux petit restaurant où on vous sert un de ces petits repas français des mieux cuisinés, avec une bouteille d'excellent beaune pour 3 shillings 6 pence, dont, ajoute l'auteur, je n'aurais pas la bêtise de révéler l'adresse. C'est sur l'évocation de ce dîner savoureux et bienvenu que se termine le livre. Si par chance 3 hommes dans un bateau se trouvent dans votre bibliothèque, n'hésitez pas à vous y replonger. Le confinement passera plus vite. Prenez soin de vous et prenez patience. Et retrouvons-nous le mois prochain pour notre dernière tasse de thé de la saison.